Romains 5, 1, 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et après... Après, c'est Éphésiens 2, 8, c'est ça ? Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et après... Après, c'est Éphésiens... Non, c'est Ésaïe 10... Ésaïe 10, versets 10 à 15, c'est ça ? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance des regards hautains. Car il a dit, c'est par la force de ma main que j'agis, c'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et plié leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, nul n'a ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. Comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Et ensuite c'est en 1 Corinthiens 15, 9 à 10. Voilà, je vérifie. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
Donc, c'est vraiment des passages qui parlent. Mais voilà, c'est ça le thème, demeurons fermes dans la grâce. Pourquoi nous sommes sauvés par la grâce. Peut-être, si on demande à chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, tu es sauvé comment? Il va dire par la grâce. Dieu m'a donné grâce. Mais le problème qu'on a tous à cause de la chair humaine, la nature du péché, c'est qu'on a tendance à quitter la grâce. On commence dans la grâce. C'est Jésus, c'est Dieu. Il m'a sauvé. Il a eu miséricorde de moi. Et on marche 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans dans la vie chrétienne. Et on commence à, en anglais on dit gravitate, c'est comme gravité vers il faut que je fasse. C'est moi qui fais. Je dois faire. C'est moi. Au lieu d'être Dieu, merci, Dieu, tu es merveilleux, tu m'as sauvé. Ça va, c'est très subtil, mais ça va vers moi. Je commence, au lieu de regarder vers lui, je regarde vers moi-même. Et je regarde dans le miroir chrétien. Ou le miroir religieux, et c'est comme ça que je vis maintenant la vie chrétienne. Je suis occupé avec moi-même et j'ai quitté la grâce de Dieu de manière opérationnelle dans ma vie. Ça ne veut pas dire que j'ai quitté la grâce de Dieu, parce que ce verset qu'Éric a lu en Romains 5, 1, 2, c'est que nous demeurons fermes dans la grâce. Et c'est positionnel. On parle dans la vie chrétienne de notre position et de notre expérience. C'est deux choses différentes. Nous sommes enfants de Dieu, justifiés, pardonnés, sauvés. Nous sommes des nouvelles créatures. Mais expérimentalement, je peux marcher selon la chair et ne pas manifester la justice que Dieu m'a donnée. Et voilà. Et mais c'est qu'est-ce que la grâce est nécessaire pour nous au début de la vie chrétienne et il est nécessaire pour nous pendant la vie chrétienne. La seule manière de réussir notre vie, notre marche avec Dieu, c'est si nous demeurons fermes dans la grâce. Et on va voir quelques points et sur ça. Et je crois que ça va être édifiant pour nous, très édifiant. Demeurons fermes dans la grâce comme base pour la vie chrétienne. Le livre de Galates, j'aime beaucoup ce livre de Galates, c'est tout à propos de ça. C'est l'apôtre Paul qui on a entendu parler, on a entendu une citation de lui à la fin là. Il exhorte cette église, ou des églises en Galatie, de revenir en gros à la grâce comme base pour leur vie chrétienne, parce qu'ils ont été, il dit, ensorcelés. Littéralement, il dit ensorcelés. Qui vous a ensorcelé? C'est spirituel, on va dire même diabolique. C'est le royaume des ténèbres qui essaie de nous influencer comme chrétiens pour vivre selon la loi ou selon les mérites et nos propres œuvres ou des rites religieux. Et en Galates, on va lire quelques versets juste. Letty, je crois que tu as la version Summer là-bas. Et Galates 4, 5, verset 4. Il y a d'autres versets. Il y a 1, verset 6 et 2, verset 21. Je ne frustre pas la grâce de Dieu en vivant selon les œuvres de la loi. Galates 1, 6, c'est vous avez quitté celui qui vous a appelé à la grâce de Dieu. Mais 5, verset 4, dans la version Summer, j'ai aimé cette version. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Et j'ai aimé ce mot. Le régime, je veux vivre ma vie sous le régime de la grâce. Et peut-être c'est un jeu de mots, ok? Mais régime, on va vers la fin de l'année. Bon, le début de l'année, tout le monde parle de régime. On va faire un régime après les fêtes. Et il y en a qui ont régime de la loi. Et je ne veux pas avoir ce régime-là. Je vais parler bien spirituellement. Mais un régime de la grâce, ça va me nourrir. Ça va me faire du bien. Ça, c'est comme ça. Le livre de Galates, c'est ça. Vous voulez la bénédiction de l'Esprit? Bon, ne le cherchez pas dans la loi. Le cherchez par la foi en Jésus qui a tout accompli pour vous. Il vit en nous. C'est par la foi que je bénéficie de cette grâce et de cet Esprit Saint que nous avons donné. Lui de la foi. Voilà. Deuxième chose, demeurons fermes dans la grâce face à l'opposition. Et, ouais, on va d'abord lire un verset. 2 Samuel 23, verset 11. C'est pas ce Tony qui m'a partagé ce verset hier, depuis son lit d'hôpital. 2 Samuel 23, verset 11. Bah, ça peut être n'importe, je pense. Oui, après lui vient, après lui, Shama, donc il parle des envahissants de David. Fils d'Agué, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Leti. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fouillait devant les Philistins. Donc là, on a une situation, il y a une pièce de terre, une champ rempli de lentilles, bah, c'était la nourriture du peuple, et les Philistins venaient souvent, sûrement, j'imagine, pour voler les lentilles, pour voler la nourriture, et prendre la place, et lui, on voit dans le prochain verset, pardon, c'est verset 12. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Donc il s'est tenu au milieu de ce champ quand le peuple se sent enfoui. Et c'est ce qui se passe, c'est que vivre selon la grâce, ça semble tout beau et belle, et c'est chouette. C'est Jésus dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est une vie de joie, c'est une vie d'amour si je vis selon la grâce. Mais il y aura de l'opposition à ça. On se place dans une guerre spirituelle. On n'a pas le choix en fait. Dès qu'on a reçu Jésus-Christ, on s'est placé dans une guerre spirituelle. Là, c'est une guerre physique, mais nous, c'est une guerre spirituelle. Pas avec des armes physiques, mais voilà. Et il y aura beaucoup d'opposition à cette vie. Et souvent, c'est même l'opposition peut venir par des religions, des groupes religieux, d'autres religions, ou des religieux parmi les chrétiens, comme Paul quand il a écrit aux Galates. C'était des judaïsants. Livre de Hébreux, tout le livre d'Hébreux s'est adressé aux chrétiens qui apparemment vivaient à Jérusalem et en Judée, voilà. Et dans cet endroit là-bas. Et ils commencent à être persécutés par les juifs qui n'étaient pas croyants en Jésus pour leur foi. Et ils étaient tentés à revenir au sacrifice du temple, à obéir à la loi, à pratiquer la loi comme base, au lieu de garder leur profession de foi en Jésus, qui a tout accompli pour eux, qui les a perfectionnés pour toujours. Et la tentation était, c'est pas juste théologique, hein, c'était physiquement, ça affectait leur vie. Leurs enfants ne pouvaient pas les envoyer à l'école parce que non, on ne veut pas des chrétiens ici. Et le business, les gens arrêtent d'acheter dans leur magasin. Ils ont un magasin, on n'achète plus chez lui, on fait boycott. On dit boycott en français? Boycott parce qu'il est chrétien. La pression a monté dans la société contre la foi chrétienne. Et ils ont souffert, pas jusqu'au sang dans cet contexte-là, mais ils étaient tentés à juste suivre le foule religieux pour éviter ces pressions-là et ces souffrances, parce que c'était une souffrance de ne pas de perdre ton business. C'est une souffrance. C'est une souffrance si des gens parlent mal de nous. Et si nous vivons dans cette foi, dans la grâce de Dieu, il est possible qu'on va souffrir pour ça. D'une certaine mesure. Peut-être c'est juste quelqu'un qui, on se sent hors du groupe. Il a dit ça dans le livre d'Hébreux. Allons vers lui hors du camp. Jésus a été crucifié hors de la ville de Jérusalem. Et allons-nous avec lui hors du camp, car nous avons un autel, un autre autel que ceux qui sont dans la ville en train de faire les sacrifices. Pensons aux trois jeunes hébreux, Daniel chapitre 3. Bah, la religion encore, c'était une religion d'homme, un culte d'homme, Nebuchadnezzar, son statue, mais tout le monde était obligé de se prosterner devant ce statue. Et eux, ils ont demeuré fermes dans leur foi. On plie pas le genou devant ce statue. Nous, on plie le genou devant le Dieu vivant. Et ils allaient payer un prix pour ça. Et ils se sont tenus fermes. Et Dieu les a délivrés dans cette situation. Mais ils ont dit, même s'il nous délivre pas, on va pas le faire. Il est capable de nous délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas. Parce que nous aussi, on a, dans notre foi dans laquelle nous demeurons fermes, il y a une espérance qui va au-delà de tout ce qu'on peut faire à notre corps physique. Et voilà, la grâce, well, next point, prochain point. Demeurons fermes dans la grâce pour accomplir la volonté de Dieu. Et pour accomplir notre appel. Nous sommes appelés à, on a l'appel, la volonté de Dieu générale pour nos vies à tous. C'est aimer les uns les autres, prions les uns pour les autres, recevant de Dieu sa parole, gagner des âmes, parler de Jésus aux autres. Mais tout ça, sans la grâce, impossible. Je n'arrive pas. Je n'arriverai pas. Je peux pas aimer ma famille sans la grâce de Dieu. Et nous devons demeurer fermes dans une foi qui dit que Dieu, tu m'appelles à ça, c'est toi qui vas le faire au travers de moi. Tu vas me donner des provisions pour faire ça. Si c'est moi qui dois le faire, la barre est trop haute. Je ne peux pas. Je vais être frustré. Et voilà, le verset qu'elle a mis, c'est ça. Fidèle, c'est lui qui vous a appelé, fidèle, 1 Thessaloniciens 5:24. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. On a lu 1 Corinthiens 15:9 et 10. L'apôtre Paul, il a dit, j'ai travaillé plus que toi. Il se comparait à toutes les autres apôtres, Pierre, Jacques, Jean. Et lui, on va dire, t'as du culot pour parler comme ça, apôtre Paul. Mais il était humble dans ce qu'il a dit. Et c'est la grâce dans sa vie a produit des œuvres. Dieu a préparé des œuvres en avance pour nous, à chacun de nous. Il les a préparées. Donc la grâce, ils sont préparés par grâce. C'est pas nous qui les préparons, qui les initions. C'est Dieu qui les initie. Et il veut juste qu'on marche dedans. Et pour marcher dedans, il faut que je demeure dans la grâce. Parce que, et l'apôtre Paul, il dit, c'est pas moi qui a fait tout ça. C'est la grâce de Dieu qui est avec moi, qui est avec moi. Et il y a un autre verset, Hébreux 12, 28, dans la version Darby, s'il te plaît, parce que c'est plus juste au mot grec. C'est pourquoi, recevant un royaume ébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et crainte. Parce que si je vis selon les œuvres, je vais frustrer la grâce de Dieu. Je vais manquer de grâce. Et donc, ça va être moi qui fais l'œuvre de Dieu et moi, je suis incapable. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si je me mets en position de récepteur de Dieu, au lieu de regarder à moi-même, je regarde à Dieu. Et je dis, Dieu, tu m'appelles à ça. Je marche pas la foi. Je prends les pas. Peut-être avant de sentir la grâce, Je prends les pas comme Pierre sur les eaux. Mais moi, je vais pas le faire. Dieu m'a pas appelé de marcher sur l'air ce matin. Mais il a pris le pas et la grâce était sous ses pieds. Et c'est ce qu'on trouve dans la marche par la foi. C'est pas que, ah oui, ouf, la grâce, bah, allons-y, je le sens. Non, c'est Dieu m'appelle. Dieu, tu m'appelles? Oui, ok. Je marche. Mais Dieu, ça, c'est impossible ce que tu m'appelles. Cringe. Comment on dit cringe en français? Cringe. C'est un peu comme si tu vois quelque chose vient vers toi, tu t'es effrayé, quoi. Peut-être tu es effrayé parce que tu vois l'impossibilité de la chose, mais tu marches dedans par la foi et tu rends compte la grâce de Dieu qui est fidèlement là pour nous. Fidèlement là. Et aussi, en hébreu, il dit, bah, si vous avez besoin de grâce, bah, approchez-vous au trône de la grâce. Approchons-nous au trône de la grâce. Bah, on peut demander. Dieu, il est là. Hein? Il dit, bah, vous n'arrivez pas? Demandez-moi. Hein? Je suis là. Donc, la grâce est disponible et nous pouvons demeurer fermes dans cette vie de foi, dans la grâce. Confiance que Dieu va faire grâce. Il a fait grâce, il va faire grâce. Fidèlement. S'il m'appelle, c'est pas pour m'abandonner en mi-chemin. Il m'appelle, il va pouvoir. Ça parle des finances, ça parle de tout. Ça parle de l'esprit qu'il faut pour faire. Noël, on va avoir une fête de Noël. Il y a beaucoup de gens impliqués à préparer ça. Et il y a des sketchs, ils ont eu une répétition hier. Peut-être c'est avec peur et tremblement, parce que, écoute, je ne sais pas si ça va marcher, mais on y va par la foi et Dieu va être là par la grâce. Et il va se manifester parmi nous, parce que c'est ça dont on a besoin. C'est pas comme à l'école, peut-être, oh, belle performance. Nous, on s'en fout de ça. On veut pas une belle performance, on veut la grâce. Nous, on veut Dieu. Parce que c'est seulement Dieu qui peut nous aider et qui peut aider et qui peut sauver les gens qui viennent parmi nous. Et il est là parce que nous demeurons fermes dans la grâce. Nous sommes en lui et lui en nous. Next. Demeurons fermes dans la grâce quand Dieu nous corrige. Hébreux, toujours le livre d'Hébreux, chapitre 12, ça parle de la correction de Dieu. Il châtie ses enfants qu'il aime. Mais il se peut que quand Dieu me corrige, je le prends mal. Et je ne demeure plus dans la grâce. Et il dit en verset 15, ne manquez pas de grâce comme Ésaü. Parce qu'Ésaü a manqué de grâce et ça a produit toutes sortes de mauvais résultats dans sa vie. Mais c'est seulement la correction aura effet si je reçois la grâce de Dieu. Ok, Dieu, tu me corriges, mais je sais que tu m'aimes. Je suis en toi. Je vais pas devenir amer avec la correction de Dieu sur ma vie. C'est pour mon bien que tu fais ça, Seigneur. Et maintenant, on ne sait pas toujours si c'est la correction de Dieu ou si c'est juste une épreuve gratuite ou quoi. Mais une autre chose par rapport à l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle à quelque chose, en marchant dedans, Dieu va nous corriger aussi. Et peut-être on va éviter l'appel parce qu'on ne veut pas le processus de correction qui vient avec. Parce que je vais me tromper dans mon appel. Peut-être je vais dire des bêtises et après ma conscience, oh Seigneur, j'ai dit, et Dieu il va me reprendre, il va dire, t'aurais pas dû dire ça. Et moi je veux pas ça. Je veux pas cette correction-là. Ça fait mal. Et il vaut mieux juste que je m'assoie dans mon coin, je fais rien, je dis rien, et comme ça je suis tranquille. Non. Marchons dans l'appel. Juste recevons la grâce s'il nous châtie, s'il nous corrige. Parce qu'on a, on aura besoin de correction. Hein? On aura tous besoin de correction. Next, à qui, voilà, je veux marcher dans cet appel que Dieu a pour moi. Demeurons fermes dans la grâce vis-à-vis de nos échecs. Hébreux 4, 16. Voilà, si j'échoue, ça peut être aussi, on dit en anglais, gâteau d'humiliation. Des fois, quand les gens échouent, il va manger du gâteau d'humiliation. Et en gros, ça veut dire, voilà, je tombe sur mon visage en essayant la volonté de Dieu, parce que j'ai manqué peut-être de confiance en Dieu, dans sa grâce, j'essaie de faire moi-même, voilà, ou peu importe, j'ai un échec, ou j'échoue parce que je cours loin de Dieu, comme Jonas, et peu importe l'échec ou la nature de l'échec, ça peut servir quand même, malgré le fait que ça ne glorifie pas Dieu, l'échec, et on n'encourage pas le péché, ça peut servir pour mon cœur et dire, ah, sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Je suis, voilà, l'humiliation, c'est bien parce que ça peut m'humilier, ça peut amener l'humilité. Si je le reçois correctement, si je le vis correctement, il faut que je me relève. Parce qu'il y a la grâce pour ceux qui échouent. Mais prochaine, vis-à-vis de nos succès, ça c'est peut-être plus important que l'autre. Bon, plus important, c'est gros, grand. Mais c'est peut-être là où on échoue. C'est vraiment subtil. Parce que, imaginons, Dieu m'appelle à quelque chose, peu importe, même si c'est juste aimer ma famille, on va revenir à ça, et j'ai réussi à aimer ma famille, et ça produit des bons fruits dans ma famille, et ça semble être une famille réussie, peut-être, maintenant, est-ce qu'il existe une famille réussie à 100%, mais voilà, j'ai un certain niveau de succès selon mes mesures, à moi, et peut-être c'est du vrai succès par Dieu. Et après, je dis, j'ai bien fait, hein. Vous voyez comment j'ai bien géré ma famille? Vous voyez, faites comme moi. Oui. Vous voyez que je suis bien, là. J'ai réussi, non? Ah, je devrais pas être si mal que ça. Je suis quand même juste, hein? Je suis quand même un bon gars. Hein? Et c'est ce qu'on a lu en Ésaïe 10, verset 12 à 15. C'est le roi d'Assyrie. Dieu l'a utilisé comme un ouvrier lève une hache pour couper du bois. Dieu l'a utilisé pour châtier Israël. Et après, je crois que c'est dans verset 14, c'est marqué que, non, verset 13, pardon. C'est l'orgueil de son cœur. Il a fait quelque chose. Il a bien fait la chose. Dieu a fait la chose, en fait. Et c'était lui, c'était que Dieu l'a utilisé. Et on peut facilement se tromper. Dieu nous utilise et on s'approprie la victoire pour nous-mêmes. Et c'est très subtil dans la vie chrétienne. On s'enfle d'orgueil parce que Dieu m'a utilisé, tu vois. Mais Dieu peut utiliser une âne. Dieu peut utiliser un grand poisson dans la mer. Dieu peut utiliser des pierres s'il veut. Donc, c'est pas grand, pas grand chose parce que Dieu t'a utilisé. C'est une grâce que Dieu t'a utilisé. Ça m'encourage d'un côté, c'est que, même si je me considère que comme une sauterelle, comme les Israéliens en Nombres, je crois que c'est Nombres chapitre 12, ils se voyaient comme des sauterelles, mais ils auraient pas dû se voir comme ça, mais voilà, c'était manque de foi en Dieu. Dieu peut utiliser des sauterelles, donc. Voilà, si moi je suis petit à mes yeux, bah Dieu peut m'utiliser. Donc, comme ça change rien pour Dieu, si je suis faible ou incapable, c'est Dieu qui m'utilise. Mais l'autre côté, c'est quand Dieu m'a utilisé, c'est là où il y a le danger. Donc, presque, il vaut mieux ne pas avoir du succès, mais vivre dans l'humilité devant Dieu. Maintenant, on peut avoir des échecs et vivre dans l'orgueil, mais vaut mieux ne pas avoir du succès et que Dieu travaille en moi de l'humilité. Et peut-être ça prend des années. Et il fait une œuvre dans mon cœur. Et ah, Dieu, quand est-ce que tu vas m'utiliser? Attends, mon enfant. Patiente-toi. T'es pas assez humble. Je peux pas t'utiliser parce que tu vas te gonfler. Peut-être c'est ça. Dieu doit nous préparer pour nous utiliser. Dieu peut utiliser n'importe qui, mais il a du mal à utiliser les hommes et qui ne sont pas d'orgueil. C'est un défi pour Dieu. Et c'est pour ça aussi que quand je marche dans la volonté de Dieu, je sais que c'est un des points qui va toucher. Et ça va faire mal quand il le touche. Ah, t'es orgueilleux. Là, tu t'es approprié la gloire, là. Attention. Et ça fait peur. Parce que Dieu ne partage pas cette gloire. Si je suis glorifié, ça aide personne. Donc, il faut que Dieu soit glorifié. Romains 3, 27. On a 7 minutes et on va finir. Romains 3, 27, ça parle du salut. Et où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Voilà. Se glorifier dans le plan de Dieu et dans l'appel de Dieu est exclu. Si Dieu t'utilise ou si Dieu m'utilise, j'ai rien à dire à propos de moi. C'est une grâce. L'apôtre Paul, il avait cette attitude. Mais comment l'apôtre Paul a eu cette attitude? Attention aussi. Comment Dieu l'a gardé humble? 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Il avait un écharpe dans la chair. Et Dieu a utilisé sa faiblesse pour garder l'apôtre Paul de l'orgueil. Il a dit, pour pas que je m'en... Et un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu, il a des moyens à garder ses serviteurs humbles et utiles. Parce que tant que je marche dans l'humilité, je suis utile pour Dieu, vraiment utile. Dès que je m'enorgueillis, je suis plus vraiment utile pour Dieu. Et donc, peut-être il va permettre certaines souffrances dans la vie de ses enfants pour nous garder. Et nous tous, peu importe si c'est quelqu'un qui se tient ici en haut ou quelqu'un qui élève des enfants, c'est tous l'œuvre de Dieu. Dans mon boulot, même chose. Si j'arrive à faire mon boulot, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai la santé pour aller au boulot, si j'ai un tram qui est à l'heure, ils sont très bien ici en Suisse. C'est toute une grâce. Moi, je suis conscient de ça dans mon travail. Je ne pourrais pas faire mon travail si Dieu ne me donnait pas la force, la santé et même la sagesse dans mon travail et la capacité de le faire. Est-ce que je fais des échecs? Oui, on fait tous des échecs. Mais Dieu, avec nous, ça fait quelque chose. Et moi, je pense que même les non-croyants reçoivent une grâce de Dieu pour faire leur travail. Moi, je crois. C'est tout le monde. Si mes parents m'ont élevé, peut-être ils n'étaient pas croyants, mais c'était la grâce de Dieu qui m'a élevé, si j'ai eu ce privilège. Et même si ce n'était pas eux, c'était quelqu'un d'autre, c'était une grâce. C'était une provision de Dieu. Tout est grâce. Et on ne mérite aucun bénéfice. De demeurons ferme. Bon, on va peut-être sauter Écoute, je saute, peut-être je reviendrai sur d'autres points, mais demeure ferme dans la grâce quand c'est dur et tout semble infructueux. Ça, c'est un bon point. Quand je suis dans mes responsabilités, mon appel, élever une famille, faire un travail, ou dans un ministère de l'Église ou de l'œuvre de Dieu, et des fois, c'est dur. Et ça semble ne pas être très fructueux. C'est juste, c'est du travail, ou c'est, il fait froid, il neige, ou la pluie, il n'y a pas de réponse, pas des bonnes, apparemment même des mauvaises réponses, mais je marche dans la volonté de Dieu. Et ça peut être frustrant, mais demeurons dans la grâce, dans ces moments-là, ne quittons pas, n'abandonnons pas la marche par la foi en Dieu, vivant sous la régime de la grâce. Ne cherchons pas ailleurs d'être satisfait. Dieu, marchons selon nos convictions, c'est dur parfois. On a des convictions. Dieu, la grâce nous donne des convictions. Parce que les convictions, si j'aime, je vais avoir des convictions. Il y a certaines choses que je ne vais pas faire. Il y a certaines choses que je vais dire oui, d'autres je vais dire non. Et certains que je dis oui, ça va me coûter quelque chose. Et dire non aussi, des fois, ça va me coûter quelque chose. Mais ne quittons pas quand c'est dur. L'apôtre Paul, il a dit à Timothée, un jeune pasteur, de Timothée 2, 1 à 7, en gros, sois ferme dans la, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et dit, en anglais c'est marqué, endure le dureté comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc ça peut être dur. Il parle aussi d'un fermier ou un athlète qui s'entraîne. L'athlète, il s'entraîne, il n'y a rien qui se passe en fait. Il s'entraîne. Il n'a pas de médaille, il n'y a personne qui l'applaudisse quand il est en entraînement. Mais s'il loupe ça, bon, il n'a pas de médaille aussi après. Et le fermier, c'est comme ça aussi. Il ne voit pas les résultats, mais il laboure le champ. Et à l'époque, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas des combine harvesters, ils n'avaient pas des machines pour faire le travail. Mais c'était dur, mais ne quittons pas cette vie de grâce, cette marche par la foi. Et parce que ça pourrait être beaucoup pire. Deux Pierre 3, et c'est les derniers versets. Voilà. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, verset 17, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir à votre fermeté. Parce que peut-être ça va pas très très bien comme j'aimerais. Peut-être il n'y a pas de fruits partout dans ma vie et de succès partout et des résultats que j'aspire ou je rêve que Dieu va m'utiliser grandement. Peut-être Dieu va nous appeler à laver des toilettes toute notre vie et il va être glorifié là-dedans. Mais peut-être quand même on a une certaine stabilité dans notre vie, une stabilité dans notre âme. Et ça, c'est une grâce, parce que c'est très instable. Je suis très instable s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Pasteur Schaller prêchait un message que le meilleur endroit d'être, le plus stable, c'est d'être comme ça. Parce que quand tu es comme ça, en fait, tu es en danger. Mais juste ma vie est instable, mais la grâce me donne une certaine fermeté. Et verset 18, et on va finir ici. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, nous grandissons, nous croissons spirituellement dans cet régime de la grâce. Et on trouve la grâce dans nos frères et sœurs. On trouve la grâce dans la Bible, quand Dieu nous parle. On trouve la grâce devant Dieu. Le Saint-Esprit, il y a un ministère, il y a la grâce. Il y a l'évangile de la grâce, la bonne nouvelle. Je trouve la grâce dans la bonne nouvelle. Et ne quittons pas cette sentier de grâce. Et parfois ça va nous faire mal, ok. Mais je fais confiance à mon Dieu. Il a un bon plan. Et toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Mais voilà, Dieu, et je viens devant son trône, Dieu aide-moi à demeurer dans ta grâce.